Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Quelqu'un que ses détracteurs, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, mettent autant de passion à détester ne peut être qu'une bonne personne. Telle est Caroline Fourest, journaliste, lanceuse d'alerte, militante fustigeant tous les intégrismes et traquant la dérive identitaire et l'appropriation culturelle, ce nouveau blasphème, dans un livre passionnant qui paraît chez Grasset, Génération offensée.
Europe 1.
Je suis ravie de vous accueillir, Caroline.
Mais moi, je suis ravie d'être là. Merci.
Caroline Fourest, il existe aujourd'hui, dans cette génération que vous appelez la génération offensée, une vraie culture victimaire, amplifiée bien sûr par les réseaux sociaux et qui a même contaminé les universités. En mai 68, la jeunesse rêvait d'un monde où il serait interdit d'interdire. Désormais, c'est imposé une nouvelle génération qui ne songe qu'à censurer ce qui est supposé l'offenser. Et on arrive toujours sur le terrain identitaire et sur le terrain de l'appropriation culturelle. Récemment, par exemple, aux États-Unis, la star de la pop Katy Perry, qui est blanche, a dû s'excuser à la télé de s'être coiffée avec des tresses africaines. Bon, en fait, cette culture de l'offense supposée, elle est née de l'obsession identitaire.
Oui, qui nous rattrape tous sous des formes différentes. On voit bien monter les passions identitaires d'extrême droite, on voit très bien où ça nous mène. On est moins habitué à voir ces démons identitaires infiltrer la gauche et peut-être même au point de lui faire perdre son goût pour la liberté. Moi, j'ai l'impression que la gauche libertaire est en train d'être un peu remplacée par une gauche plutôt moraliste, plutôt dogmatique. On a déjà eu des gauches dogmatiques dans le passé, mais là, vraiment, on cherche plus à faire la morale qu'à faire progresser l'égalité et la liberté.
Et c'est une femme de gauche qui affirme ça.
Oui, bien sûr, et c'est non seulement une femme de gauche, mais qui vient du combat contre les discriminations. Moi, j'appartiens plutôt à la deuxième gauche. J'ai jamais appartenu à cette gauche marxiste, révolutionnaire. Je viens pas de là. Je viens du combat contre l'homophobie, je viens du combat pour l'égalité des droits. C'est lui qui m'a forgée.
Alors, cette passion victimaire que vous analysez justement dans Génération enfoncée, elle est en train de créer partout de la censure et de l'auto-censure. Vous dites que l'inquisition grandit dans les facultés, les partis politiques, les syndicats, bien sûr, dans le monde de la culture, bref, sur tous les réseaux d'influence et sème la terreur sur les réseaux sociaux. Blasphème, c'est le mot magique de toutes les menaces aujourd'hui.
Oui, mais que personne ne prononce. C'est-à-dire qu'en réalité, on a des campagnes qui sont des campagnes dignes de celles qu'a mené, par exemple, souvenez-vous, l'Église et les Ligues de Vertu contre Madonna, quand elle avait fait son
clip Like a Prayer,
qui est quand même sublime, où elle embrasse un Christ noir après l'avoir délivré de prison. Donc c'est un clip extrêmement subversif. Mais à cette époque-là, à l'époque de Madonna, ce sont vraiment les Ligues de Vertu qui voulaient censurer les artistes qui transgressaient les codes, transgressaient les frontières culturelles.
Alors qu'aujourd'hui,
c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est une génération de jeunes plein de bonne volonté, de jeunes et de moins jeunes hein, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi, il y a l'anecdote dans le livre, il y en a plein, mais je raconte une mère de famille qui avait organisé un anniversaire japonisant pour sa fille, donc toutes ses copines s'étaient mises en kimono, il y avait des fleurs sur la table, etc. Et les copines ont publié les photos sur Internet et la mère de famille s'est fait agonir pour appropriation culturelle. Et le débat qui s'en est suivi, c'est des internautes japonais, parce que c'est l'avantage de nos débats transnationaux.
Qui l'ont défendu ?
Qui ont dit, mais attendez, nous, on le vit comme un hommage, c'est plutôt un clin d'œil à notre culture. Et c'était plutôt des internautes, alors soit afro-américains, soit de cette sensibilité, qui disaient non, c'est une appropriation culturelle. Et ça atteint des proportions, parce que ça, c'est un des premiers cas, celui dont je vous parle. Mais depuis quelques années, effectivement, il n'y a plus un chanteur ou une chanteuse qui peut poser avec des dreadlocks sans avoir une campagne contre elle. Vous avez cité Katy Perry, mais Pharrell Williams, qui est un chanteur afro-américain, s'est fait aussi agonir et accusé d'appropriation culturelle parce qu'il a posé pour un magazine avec une coiffe amérindienne. Donc c'est presque devenu, sous prétexte de dire « vous devez respecter la culture au point de ne pas emprunter ses codes », quand vous n'êtes pas de la bonne identité, c'est presque devenu un refus du métissage culturel.
Alors, dans Génération enfoncée, votre dernier essai, il y a un exemple frappant. Vous parlez, par exemple, de cette dessinatrice blanche qui ne peut pas signer un album de BD contre le racisme anti-noir, car la jeunesse concernée dit que, en fait, sa couleur de peau lui interdit de toucher au sujet, alors qu'elle, elle prend fait et cause pour les Noirs.
Alors, c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'elle peut, elle fait, Émilie Plateau a réalisé la version illustrée d'un livre écrit par Tania de Montaigne, qui se trouve être non seulement une amie, mais c'est un livre que j'ai édité moi comme éditrice dans ma collection chez Grasset, Nos héroïnes. Et ce livre noir raconte effectivement l'histoire d'une héroïne des droits civiques qui a, avant Rosa Parks, refusé de céder son siège
dans
un
bus.
Blanc dans un
voilà.
bus. Émilie Plateau a illustré la version donc, album de ce très 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 joli livre de Tania de Montaigne. Et c'est la directrice, c'est plutôt la chargée, si vous voulez, des droits étrangers, des traductions vers les pays anglophones, qui s'est inquiétée, qui a dit ça, aux États-Unis, ça ne va pas passer. Parce qu'une dessinatrice blanche qui signe un album contre le racisme anti-noir, ça ne peut pas s'appeler Noir, elle est blanche. Donc le livre est parti un peu, de mon côté, d'un coup de fil que j'ai reçu de Tania de Montaigne, effondrée par ce retour, qui me dit, ils ne veulent pas l'appeler Noir. Il a fallu se battre pour qu'un livre sur le racisme anti-noir s'appelle Noir. Nous, on finissait par en rigoler.
Et il s'est appelé Black.
En anglais, c'est Black, Noir.
Voilà, voilà. Parce mais que si en c'était France, il s'est appelé
en
comment
En France, il s'est appelé Noir, parce qu'on a en France, ça va encore. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de montrer, c'est-à-dire qu'on est à la charnière, en réalité. En France, honnêtement, il y a encore des gens qui réfléchissent de façon antiraciste et universaliste, et qui se disent, non là, c'est plus l'antiracisme, c'est du délire identitaire, et c'est du délire tout court. Mais aux États-Unis, ces antiracistes ont perdu le combat depuis des années. Donc si on ne se pose pas les questions à temps...
Ils ont perdu le combat,
bien sûr.
Vous, Caroline Forest.
La gauche antiraciste américaine est devenue complètement obsédée par les questions, ce qu'on appelle là-bas l'identity politics, c'est-à-dire la politique d'identité, de façon tellement caricaturale parfois que pour moi, c'est un des éléments aussi qui favorise le vote pour une caricature comme Donald Trump.
Bien sûr.
Donc j'ai un peu aujourd'hui une obsession, c'est d'essayer d'alerter à temps la gauche antiraciste pour qu'elle ne reproduise pas ses erreurs avant qu'on retrouve des Donald Trump partout en Europe.
Donc, cette génération foncée est habitée par une idéologie identitaire et victimaire qui, par la censure, va réduire peut-être le monde au silence.
Alors, la censure, il faut juste dire qu'elle est aujourd'hui quand même partagée de part et d'autre. Parce que là, oui, moi, partant de la gauche, j'ai plus d'attentes et j'espère plus d'une génération en termes de défense des libertés. Je n'espère rien, je n'attends rien des droites identitaires. Mais, encore une fois, un de mes combats ou une de mes alertes, c'est de dire on ne peut pas, nous, quand on est porteur des valeurs de progrès et d'égalité, on ne peut pas se comporter comme des chasseurs d'extrême droite. On doit avoir l'intelligence de respecter la liberté de parler, la liberté de création, la liberté culturelle.
Bien sûr. Et bien, vous savez, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette émission, il n'y aura pas de paroles neutres, insipides et transparentes. On fait une pause très courte. On retrouve tout de suite Caroline Forest.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1.
Jusqu'à 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Une heure pour redécouvrir une personnalité via son parcours de vie, via son regard sur le monde. Et aujourd'hui, c'est Caroline Forest.
Caroline Forest fustige la tyrannie de l'offense et ses nouveaux inquisiteurs dans un livre qui paraît chez Grasset. Génération offensée, elle est mon invitée. Caroline Forest, vous écrivez dans ce livre, sous-titré « De la police de la culture à la police de la pensée », que récemment, la direction Panthéon-Sorbonne a choisi d'annuler un séminaire de prévention du radicalisme, pensé en partenariat avec la mosquée de Paris et 80 imams, parce qu'une association islamiste, soutenue par des syndicats, a protesté que l'organisateur, le journaliste Mohamed Sifaoui, qui a fondé des attentats en Algérie contre son journal, eh bien, était islamophobe. Alors que Mohamed Sifaoui est un spécialiste justement des problèmes de radicalisation. La Sorbonne s'est donc couchée devant une intimidation et sans doute la crainte d'une polémique.
Ça, c'est le plus préoccupant, si vous voulez. C'est qu'on me dit souvent, oui, mais vous avez beaucoup d'exemples qui se passent aux États-Unis. Je dis oui, c'est vrai, mais d'abord, il y a aussi des exemples de tentatives de censure de plus en plus en France, dans la culture. On a vu la pièce Kanata au Théâtre du Soleil de Ariane Mouchkine qui a été aussi extrêmement attaquée. On a vu...
Pays multiculturaliste en plus, le
au
Canada.
Au Canada, oui, mais alors, il n'y a que la partie française qui a tenu bon, mais la partie canadienne n'a jamais pu avoir lieu. On l'a vu avec la pièce des suppliantes à la Sorbonne déjà. Mmh. Et là, effectivement, là où pour le coup ça ne tient pas, et c'est en train de céder en France, c'est au niveau de l'université. Parce qu'au niveau des universités, malheureusement, plein de cours, qui sont des cours, là aussi, partant de plein de bonnes intentions, que ce soit les cours sur la question des femmes, la question de la décolonisation, ce qu'on appelle les études décoloniales ou postcoloniales, ce qui n'est pas exactement la même chose, sont devenus parfois, pas toujours, il faut le dire, pas toujours, mais parfois entre les mains de certains professeurs un peu dogmatiques et un peu sectaires, des foyers, des écoles à créer des étudiants sectaires qui surréagissent et qui ont tendance à vouloir tout interdire. Mais ça concerne aussi les syndicats, on le voit dans l'affaire de Mohamed Sifaoui. Et le souci, c'est que quand les universités réagissent comme des forums internet, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement de foule, ils cèdent ou ils paniquent, ben ça donne qu'en réalité aujourd'hui, parce que ce n'est pas la seule affaire, il y en a des dizaines. Hein,
Que la faculté de droit de Lille, par exemple, elle n'a pas mieux fait avec François Hollande.
Oui, alors François Hollande a été attaqué par des étudiants d'extrême gauche qui sont venus déchirer les pages de son livre comme si elles étaient face à un tyran digne de la Corée du Nord. Donc tout ça était un peu grotesque, honnêtement. Là, ça révèle aussi le côté grotesque de cette extrême gauche. Mais l'université n'est pas entièrement responsable. Dans le cas de Mohamed Sifa, oui, c'est l'université qui décide d'arrêter et qui renonce un programme qui était préparé depuis des mois et des mois et des mois. Mais j'ai vécu ça moi-même, je connais beaucoup, y compris d'amis laïcs de culture musulmane, qui soient iraniens ou algériens, qui ont vécu ça dans des facultés en Angleterre, en France et en Belgique, où chaque fois qu'une poignée, et c'est souvent des étudiants et d'extrême gauche et islamistes qui débarquent ensemble, qui crient très très fort et qui ne crient que contre finalement des intellectuels modérés. Par contre, les mêmes groupes n'ont aucun problème à inviter à l'université Dieudonné, Tariq Ramadan, des complotistes qui nient le génocide arménien.
À inviter à l'université?
Oui, bien sûr. Des cercles étudiants qui invitent comme conférenciers des gens extrémistes. C'est arrivé, par exemple, pendant des années à la faculté, l'Université libre de Bruxelles. Et quand vous savez que l'Université libre de Bruxelles a été créée pour défendre le libre examen, qui était un peu l'équivalent de la libre pensée en France, c'est un peu différent, mais disons que c'est vraiment une tradition très laïque, très rationaliste. Et qu'on a vu ces cercles étudiants transformer cette université en temple du complotisme et de la propagande parce qu'ils invitaient que des extrémistes, mais que par contre, ils voulaient censurer tout conférencier antiraciste et laïque. Voilà, c'est des bras de fer. Et si les directions d'établissement ne tiennent pas bon, si les proviseurs ne sont pas courageux, en plus des écoles dont je vous parlais de pensée favorisées par certains professeurs, ça crée des générations et des générations qui se reproduisent dans le sectarisme.
Donc il y a une tyrannie de l'offense supposée qui, peu à peu, est en train d'étouffer la société.
Qui part du haut. Il y a les deux. En haut, c'est en train de devenir effectivement une prime à finalement une vision la plus identitaire et la plus sectaire de l'antiracisme. Et c'est dommage parce que c'est en plus un antiracisme qui est contre-performant. Et ça, c'est ça qui m'ennuie le plus, si vous voulez. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur la table. La question des violences policières, c'est un vrai sujet. On n'arrive plus à l'aborder parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus l'entendre. Il y a des gens qui ont considéré qu'on pouvait tout pardonner à la police désormais. Et aussi parce que ceux qui portent ces combats le portent de façon si extrémiste qu'on n'arrive plus à en parler. Donc il faut arriver à desserrer cet étau, à ne pas se laisser intimider ni par les uns ni par les autres pour dire, attendez, on a encore le droit à un discours constructif qui nous amène tous ensemble vers l'égalité. Parce que au fond, les préjugés n'ont jamais autant reculé que ces dernières années, et pourtant la haine est toujours là.
En fait, depuis l'âge de 20 ans, Caroline Forest, vous êtes donc une journaliste engagée, lanceuse d'alerte, d'ailleurs très souvent seule contre tous. Faut beaucoup de courage pour prendre la parole. Comment faire aujourd'hui pour ne pas convaincre que les convaincus?
C'est un vrai combat. J'ai un peu un slogan personnel qui est « La pédagogie est un combat ». Et j'ai l'impression que dans notre époque, le fait de dire un peu plus tôt et un peu clairement, certaines choses est en soi est extrêmement transgressif. Et c'est souvent, moi je suis en décalage avec l'image qu'on me renvoie quand on me dit « Oh là là, les polémiques que vous suscitez », parce que comme je connais mes propos, je connais évidemment ce que j'écris, je sais que c'est souvent extrêmement pesé ou trébuché, je défends des choses extrêmement simples et modérées, voilà, j'ai une vision féministe, antiraciste, universaliste, républicaine, on n'est quand même pas en train de parler de quelque chose d'extrêmement renversant. Néanmoins, on est dans une époque où cette idéologie qui peut rassembler et qui peut construire, elle, évidemment, elle se met en travers d'extrémistes qui s'entendent d'un bout à l'autre pour essayer de monter dans la passion, dans la rage, dans la confusion. Et donc, chaque fois que vous mettez un peu à nu, vous faites tomber leur masque, vous peut-être remettez de la clarté là où ils voulaient semer plutôt de la confusion, vous les dérangez énormément. Et donc, moi, comme j'ai très tôt éditorialisé contre ces extrémistes, contre les leaders d'opinion de ces mouvements de propagande, de complotisme et de manipulation. Eh bien écoutez, ils me le rendent bien, et vous connaissez l'adage, il est des hommes dont il est glorieux d'être haï, et j'y vois néanmoins aussi une façon de dire que ce travail n'a pas été inutile.
Voilà, comment d'ailleurs j'ai commencé cette présentation, n'est-ce pas?
Exactement.
Allez, on s'interrompt un bref instant, on retrouve tout de suite Caroline Forest.
Il est 15h18. Isabelle Morizet retrace le parcours de son invité cet après-midi. C'est Caroline Forest. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Le monde moderne se retribalise. Caroline Forest analyse ces dérives sectaires dans Génération Offensée qui paraît chez Grasset. Caroline Forest, vous aviez 14 ans lorsque, après le divorce de vos parents, vous avez suivi votre mère d'Aix-en-Provence à Paris. Votre père était négociant en vin, votre maman antiquaire. Et c'est à Paris, adolescente, que vous avez commencé à militer pour des causes qui vous sont apparues comme fondamentales, c'est-à-dire le féminisme, la laïcité, les droits des homosexuels et la lutte contre tous les intégrismes religieux. Mais je voudrais savoir comment elle s'est éveillée, en fait, votre conscience politique. Est-ce qu'elle s'est éveillée progressivement ou est-ce qu'il y a eu un événement fondateur ?
Mais en fait, je suis devenue engagée en devenant journaliste. C'est-à-dire que j'étais déjà à 20 ans, j'avais une rubrique dans un journal étudiant. J'ai mon premier salaire et j'ai mis longtemps à gagner d'ailleurs ce salaire.
Parallèlement aux études.
Parallèlement à mes études. Je continue mes études d'abord parce que j'avais quelques facilités, ça allait bien. Et puis parce que ça m'a porté surtout une assurance maladie que j'ai mis là aussi longtemps à retrouver ensuite. Donc comme j'avais quand même un statut de pigiste dans la presse, ça me permettait de faire les deux. Donc j'ai cheminé, j'ai fait tout ensemble si vous voulez. J'ai fait mes études, mon métier et ma prise de conscience intellectuelle en même temps que je prenais conscience personnellement du fait que, oui, d'être différente, d'aimer les femmes, générer un nombre d'obstacles que je n'avais pas vu venir, parce que dans ma famille, quand on est...
Plus encore élevé, il y a quelques années.
Évidemment, plus il y a quelques années. Plus en tant que femme indépendante, même qu'en tant que lesbienne, c'est-à-dire que ça va avec. Mais quand vous, à 20 ans, vous évoluez dans le monde professionnel, puisque donc je commençais déjà à travailler.
Dans quel journal d'ailleurs ?
Transfac, qui était un journal étudiant diffusé à 200 000 exemplaires, gratuit.
Oui.
Mais comme disait le directeur de l'époque, nous on était chargés des petites lignes noires entre les publicités. Et lui, il s'en fichait complètement. Ce qui l'intéressait, c'était les publicités, si vous voulez.
Étiez peut-être très libre alors justement.
Alors justement, j'en ai beaucoup profité. Et moi, à chaque fois qu'on me donne un peu de liberté, il faut pas voilà, j'essaie de la conquérir au maximum. Et un jour, malheureusement, il a lu mes articles. Et donc là, il y a eu une petite...
n'avait pas été renvoyé.
J'avais pris la défense des sans-papiers, je m'étais battue déjà pour les Kurdes, parce que c'était parmi mes premiers articles, j'avais fait des enquêtes contre les anti-avortements. Si, j'ai fini par être renvoyée, justement, après un bras de fer avec mon rédacteur en chef, notamment sur un article qui concernait d'ailleurs en partie les Kurdes. Et du coup, j'ai porté plainte au prud'homme, parce que j'avais quand même été payée sur un statut très aléatoire pendant quelques années. Et avec le peu d'argent que j'ai gagné au prud'homme, je me suis défendue moi-même, j'ai créé ma propre revue.
Pro-choix, dont on va parler tout
exactement.
À l'heure. Mais vous allez un peu vite en besogne. Je voudrais rester un moment sur l'adolescence, parce que manifestement, ce goût de la vérité et ce tempérament fort qui est le vôtre, il rayonnait déjà. Adolescente, vous aviez confié un jour à l'une de vos tantes, plus tard je serai comédienne. Ce à quoi il paraît qu'elle a répliqué dans un grand éclat de rire. Enfin Caroline, tu n'y songes pas, tu serais incapable de dire une phrase que tu n'as pas écrite toi-même.
C'est vrai.
Donc ce goût de la rhétorique, vous l'avez toujours eu. Et vous avez toujours depuis l'enfance affirmé en fait la singularité de vos convictions et de vos pensées en mots choisis.
Oui, mais je ne savais pas encore quel métier c'était. Parce qu'en fait, j'avais la passion des objets, j'adorais les micros, les enregistreurs, je lisais beaucoup de pièces de théâtre, je lisais beaucoup de discours d'hommes politiques. Et en même temps, je ne savais pas, je ne voulais pas devenir politique.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont une vie abominable, c'est une vie de contraintes, c'est une vie d'insultes. Enfin, parce qu'il n'y a pas assez de liberté. Voilà, moi, je suis maniaque avec l'indépendance et la liberté. Et vraiment, à un point des fois qui peut me mettre dans des situations compliquées, j'étouffe si je n'ai pas une totale liberté. Mais à l'époque, je ne le savais pas encore. Évidemment, on apprend à se connaître quand même en marchant. Je savais juste que j'avais des facilités pour prendre la parole, parce qu'on me demandait souvent de faire les discours dans ma famille.
Mais oui, voilà. Par exemple, il paraît que vous aviez 15 ans lorsque vous avez perdu un oncle que vous adoriez. Votre famille, d'une seule et même voix, a déclaré « il n'y a que Caroline pour écrire le discours ».
Et j'avais jamais écrit de discours et j'avais jamais pris la parole en public. Donc j'ai été surprise, moi, de ce regard.
Mais vous étiez
désignée,
on vous devinait déjà.
Ce qui fait que mon premier discours, je l'ai fait dans une église, quand même. et j'ai eu du mal quand même à aller au bout, parce que j'étais évidemment très émue, j'étais devant le cercueil de mon oncle. Mais oui, c'était étonnant, et c'est de même que c'était étonnant. J'avais envie de cinéma, j'ai toujours eu envie de cinéma. Et du coup, comme dans ma famille, il n'y avait ni des gens qui étaient dans ce métier, ni des gens qui étaient vraiment dans le journalisme, je mettais du temps à comprendre ce que j'avais envie de faire, parce que mes parents, c'est plutôt des commerçants. Donc leur rapport avec ces métiers-là, c'est de regarder la télévision et c'est d'aller au cinéma. Donc pour moi, comme j'avais des envies de cinéma, je me disais, ça doit être que je veux être comédienne. Mais effectivement, ma tante avait bien deviné. Non, ce n'était pas ça mon envie. Mon envie, c'était profondément d'écrire et de réaliser ce que je suis en train de faire. Ce rêve, je suis en train de le réaliser maintenant.
Alors, Caroline Fourest, vous êtes titulaire d'un DESS de communication politique et sociale obtenu à la Sorbonne. Et en 97, à seulement 22 ans, donc, vous avez fondé la revue Prochoix, éditée par l'association du même nom. Revue qui défend les libertés individuelles contre toutes les idéologies racistes, intégristes, liberticides, en prenant bien sûr la protection de la laïcité, des droits des femmes et des homosexuels. Et cette revue, vous l'avez créée avec une femme étonnante qui arrivait du Liban, très au fait des sciences politiques, qui vous a appris le féminisme, avec qui vous avez écrit des livres et réalisé des documentaires, et qui est votre compagne depuis 23 ans.
Exactement, Fiametta Venner, oui. Et qui est une femme exceptionnelle, vous avez bien raison de le dire. C'est ma vraie rencontre, évidemment, personnellement ça a changé ma vie, mais intellectuellement aussi, parce qu'elle m'a vue arriver avec un tempérament très déterminé, mais je n'avais pas d'idée arrêtée intellectuellement. Mais j'essaie de fonctionner d'ailleurs encore comme ça aujourd'hui. J'essaie simplement d'analyser le plus de données possibles et d'essayer d'anticiper là où ça nous mène et de trouver une forme de chemin qui, au fond, rend le plus grand nombre heureux. C'est ma seule recette intellectuelle revendiquée. Mais elle l'avait beaucoup plus lu. Elle était en thèse de sciences politiques. Et donc, du coup, elle a mis des noms, des lectures sur tout ce que j'avais envie de faire, de dire et là où je voulais cheminer. Et on a fondé cette revue ensemble parce que ça nous offrait cet alliage entre la liberté d'écrire tout ce qu'on voulait, de défendre des idées qui nous plaisaient. À l'époque, on était surtout mobilisés contre l'extrême droite et l'extrême droite catholique anti-avortement.
Puisqu'il paraît qu'elle avait écrit sa thèse en infiltrant justement l'extrême droite.
Elle venait de sortir un livre très jeune, elle aussi. Elle a sorti un livre très jeune contre les réseaux anti-IVG qui lui a valu des menaces de mort. En fait, on s'est connus au tribunal, ce qui on s'est retrouvés quelques fois ensuite. On s'est vraiment connus à la 17e chambre correctionnelle. Je l'avais interviewée par téléphone avant, mais physiquement, on s'est vus la première fois là-bas, lors de son procès, parce que les anti-avortements avaient porté plainte contre son livre, contre 200 passages de son livre, lui demandaient une somme affolante. Je crois qu'elle avait une bourse à l'époque de 1000 francs ou 1200 francs par mois. Donc pour vivre, elle vivait dans une chambre de bonne, donc c'était quand même pas gagné pour si ce procès était perdu. Et on s'est immédiatement comprise. Elle avait infiltré des mouvements d'extrême droite, j'en avais infiltré aussi moi pour mon journal, et on a commencé à se dire qu'avec tout ce qu'on avait comme info et matériel, on pouvait faire une revue à la fois intellectuelle et d'enquête.
Alors cette revue Prochoix, on la trouve où ?
Ah ben maintenant, elle a vécu pendant 20 ans. Aujourd'hui, on l'a fini par l'arrêter parce que ça nous prenait un temps fou, en plus de tout ce qu'on a développé par la suite. Mais elle existe encore en bibliothèque. On peut commander des archives. Elle a vécu bien, elle a eu une très belle vie pendant 20 ans avec un réseau de lecteurs très fidèles. Et elle a beaucoup évolué dans sa forme parce que les premiers numéros, je peux vous dire qu'on les sortait sur notre fax avec, je faisais les dessins moi-même, la mise en page moi-même, j'écrivais bien 70% des articles. Et puis après, on est devenu plus professionnel, on a fait écrire des écrivains, des intellectuels, beaucoup d'universitaires, on avait un vrai comité scientifique, c'est devenu sérieux avec les années. Voilà.
Bon, et ben, ce que vous avez initié ensemble d'ailleurs, par la suite, on va l'évoquer dans un moment. On fait une pause, on retrouve tout de suite Caroline Fourest.
On retrouve Isabelle Morizet en compagnie de son invitée, la journaliste essayiste Caroline Fourest, auteure du livre « Génération en français » paru chez Grasset et puis aussi réalisatrice d'un premier film « Sœurs d'armes » sur un bataillon de femmes contre Daesh. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Caroline Fourest, après la tuerie de Charlie Hebdo, vos amis sont morts désignés comme islamophobes. Vous avez d'abord tenté de lutter par les mots. Vous avez écrit « Éloge du blasphème » qui est paru chez Grasset. Mais vous aviez un trop-plein d'émotions qu'il fallait transcender. Alors, en secret, vous avez choisi une nouvelle voie pour vous exprimer. Faire un film, un vrai film de guerre projeté dans des salles de cinéma. Et vous avez décidé de raconter l'histoire de ces femmes kurdes qui, pendant 5 ans, se sont battues en première ligne, Kalachnikov en main, contre Daesh. Et il paraît que c'est la vidéo d'une foire aux esclaves organisée par Daesh, n'est-ce pas, qui vendait des adolescentes kurdes, qui a provoqué donc le début de l'écriture de ce film.
Oui, d'abord, j'en croyais à peine mes yeux. D'ailleurs, on se l'a échangé avec quelques consoeurs. Je me souviens des réactions d'Annick Cojan, que je respecte beaucoup, me disant on a la source de cette vidéo. C'était fou. C'était une vidéo de l'intérieur, filmée par des combattants de Daesh, dans un marché aux esclaves, mais qui s'esclaffait en disant elle est où ma Yézidi ? Moi, j'en voudrais une aux yeux bleus, ou peut-être deux aux yeux marrons. Comment on achète un animal dont on va abuser et qu'on va violer ? Et vous l'avez très bien dit, c'est vrai que j'étais en recherche de... J'avais beaucoup écrit après les attentats, j'avais fait beaucoup d'interviews, je m'étais battue sur beaucoup de plateaux de télévision du monde entier pour essayer de défendre l'esprit de Charlie Hebdo et le faire comprendre, ce qui était encore plus dur. Et comme je faisais déjà depuis presque 20 ans, je menais ces combats de façon... Ça vous demande beaucoup de maîtrise de soi, ça vous demande de contrôler beaucoup, beaucoup vos émotions, de vous mettre de côté, parce que ce n'est pas vous la question c'est les idées que vous essayez de porter ou les analyses que vous essayez de faire entendre. Mais après les attentats, ça devenait difficile de continuer à argumenter posément face à des gens qui étaient d'une mauvaise foi, qui étaient devenus une mauvaise foi assassine. C'était plus simplement... je suis habituée à la mauvaise foi sur un plateau de télévision, dans les médias, mais là, on était devant des propos et des mots qui avaient tué. Et j'avais beaucoup de mal à... Il fallait que je déverse effectivement quelque part. Je voulais rester calme, je voulais rester fidèle à ce que j'essaie d'être, quelqu'un qui argumente toujours posément. Mais à un moment donné, j'avais quelque chose à déverser et comme je vous l'ai raconté, j'avais cette envie de réalisation. D'abord, j'avais compris maintenant enfin ce que c'était. J'avais déjà fait un court-métrage des années auparavant et j'avais mis tout ça de côté, un peu en me sacrifiant. C'est un peu grotesque, mais j'avais sacrifié ce rêve-là pour essayer d'être utile dans le débat public. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas continuer.
On peut être utile autrement.
D'abord, ça peut être utile. Pas et avec ensuite, les mots,
mais les images. Voilà. Alors, ces femmes qui ont pris les armes pour affronter Daesh dans des combats de fin du monde, vous êtes allé les rencontrer puisque vous êtes allé en fait dans les montagnes du Sinjar, à la frontière entre l'Irak et la Syrie, sur les traces justement du génocide des Yézidis. Et vous y êtes allé avec votre compagne politologue qui parle arabe. Là-bas, vous avez découvert quel monde ?
Mais en fait, ce qui était fou, c'est que je marchais dans le monde exactement que j'avais imaginé dans mon scénario, parce que j'avais commencé à écrire, j'avais beaucoup, beaucoup lu de récits des premières survivantes, j'ai été énormément documentée. Donc quand je suis arrivée sur place, ce qui était fou pour moi, c'était que je ne rencontrais presque déjà les personnages que j'avais écrits.
Vous étiez déjà dans le décor de votre scénar.
Exactement,
en fait.
Mais il y a quand même eu des moments un peu fous, et notamment dans la montagne de Sinjar, quand on a passé un long moment avec des combattantes du YPG, donc c'est un peu les plus dures et les plus impressionnantes, et elles sont très jeunes. Elles sont très radicales, elles sont assez impressionnantes. Alors, ma compagne parlait en arabe avec l'une d'elles, qui était une jeune Syrienne, pas du tout kurde. Elle était arabe, elle avait rejoint les Kurdes après que Daesh ait envahi son village. Elle n'avait plus de nouvelles de ses parents, elle vivait dans la guérilla à temps plein. Et j'avais une anecdote en tête pour mon scénario. Je me disais, ce qui serait quand même génial pour les scènes de guerre que j'étais en train d'écrire, c'est qu'elles aient un cri de guerre qui puisse être lancé sur le front et qui puisse terroriser les gens de Daesh en face, pour leur signaler que ce sont des femmes qui vont attaquer, puisqu'on sait la peur qu'ils ont d'être tués par les femmes. Mais là, je m'étais dit, bon, bah là, tu t'es fait plaisir scénaristiquement.
Un cri tribal, mais féminin.
La journaliste que j'étais résistait à la scénariste. Je lui disais, tu t'es fait plaisir, c'est pas réaliste. Et donc, j'ai posé la question à ce groupe de la guérilla, et je leur ai dit, est-ce que vous auriez un you-you ou quelque chose comme ça ? Elle m'a dit, oui, on a un you-you, des fois, on le lance pour les terroriser. Et là, j'ai halluciné parce que j'étais en plein dans mon rêve de scénariste. Et je leur ai dit, mais vous pouvez me le faire ? Et là, elles sont devenues toutes rouges. Elles ont serré leur kalachnikov contre elles. Elles ont dit, ah non, on ne peut pas le faire comme ça. C'est que sur le front. Voilà. J'ai vécu des moments assez incroyables.
C'est incroyable. Alors, Caroline Forest, le scénario de ce film de guerre, vous l'avez écrit sous l'œil attentif d'un officier de réserve, ancien parachutiste et aviateur, qui avait combattu aux côtés des Kurdes lors de la fameuse bataille de Raqqa en 2017. Donc, tout ce que raconte votre film « Sœur d'armes » est donc vrai sur le plan militaire comme humain.
Patrice Franceschi est un homme incroyable. D'abord, c'est un personnage de roman, Patrice. Quand on le rencontre, c'est un aventurier. Il a connu plusieurs guerres. Il a combattu effectivement avec les Kurdes à Raqqa. Il m'envoyait d'ailleurs plein de messages pendant la bataille de Raqqa, du front, des vidéos qu'il faisait avec elle, qui diffusent qu'à très peu de monde. Et donc, quand il a lu le scénario, je lui ai dit, dis-moi franchement, on était d'accord tous les deux que ça restait du cinéma et que donc on pouvait quand même, pour donner de l'ampleur à une scène de bataille, condenser des éléments qui étaient peut-être dans la vraie vie pas tous réunis dans une même bataille. Mais au fond, il m'a fait des remarques très justes, il ne m'a pas corrigé grand-chose. Il y avait une arme, notamment, pour faire exploser une voiture à un moment donné, où il m'a dit, non, le Browning 50, là, tu ne peux pas tirer en roulant, ça ne marche pas, ce n'est pas précis. Alors que si tu utilises, c'est un tout petit lance-roquettes, mais vous n'y croyez même pas quand vous le voyez, quand je suis allée chez l'armurier ensuite, il est tout petit, que j'ai appelé Snoopy,
parce que vous,
Snoopy dans le film.
Vous êtes allée chez un armurier pour vérifier.
Non, mais quand vous faites un film, d'abord j'ai tout vérifié dans ce film, je peux vous dire des lacets, des figurants jusqu'aux armes, et donc vous sélectionnez vos armes, et quand j'ai choisi ce lance-roquettes, parce que je savais, Patrice me l'avait confirmé, que c'était un modèle qui était utilisé dans cette guerre et qui servait, et qui pouvait faire exploser des voitures, c'était tellement ridiculement petit que je l'ai appelé Snoopy, mais c'est très efficace dans la scène.
Mais Snoopy est abominablement efficace.
Très efficace.
Alors, Caroline Forest, on va passer sur les difficultés à financer ce film, parce qu'il s'agit d'une première œuvre. Mais bon, le tournage s'est déroulé au Maroc, pas dans les montagnes kurdes. Mais vraiment, ce tournage, il va rester pour vous comme l'une des plus belles et des plus intenses aventures de votre vie, même si il paraît que vous avez dû être protégé par des policiers en civil, car en France, un site islamo-complotiste cherchait à lancer des gens à vos trousses.
Ah, vous êtes bien renseigné.
Pendant que vous filmiez, c'est ça ?
Oui, alors honnêtement, moi, ça n'a rien changé. Quand vous êtes en tournage,
certes, mais tout de même,
en train de vivre une aventure pareille avec 120, une équipe de 120 personnes incroyable, j'ai bien vu que le nombre de mobilettes qui zigzaguaient autour de nous tous les jours en allant au tournage avait augmenté. Mais sincèrement, je ne l'ai même pas vu passer. Ce site, c'est l'avantage de tourner au Maroc, c'est un lieu qui est quand même très, 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 très sécurisé. Et du coup, voilà, nous, on a fait notre film exactement comme on l'a voulu. J'ai travaillé avec des techniciens dont certains avaient des fois pas forcément les mêmes idées que moi, par exemple sur Tariq Ramadan. Et puis à la fin, on faisait partie de la même famille parce qu'on a vécu dans le même monde pendant tout ce temps-là. On a tourné aussi au Kurdistan irakien parce que quand je suis rentrée de tournage, je suis un peu entêtée et du coup...
Ah non, vous avez fait quelque chose qui a terrorisé vos producteurs.
Hein. Mon distributeur et mes producteurs étaient tétanisés parce qu'ils étaient contents, ils avaient réussi à me persuader que ça n'avait aucun sens de tourner réellement au Kurdistan du point de vue sécuritaire.
Oui, puis officiellement, le film était terminé. Voilà, il ne s'agissait plus que de
monter. Sauf que moi, il me manquait toujours des scènes d'ampleur que je voulais tourner avec la vraie armée des Peshmerga. Et ça faisait quand même 3 ans que j'étais en négociation avec eux pour l'obtenir. Et ils m'avaient promis de mettre à disposition des véhicules militaires, des lieux, des bases. Donc, à un moment donné, j'ai dit à mon distributeur, qui trouvait toujours une excuse pour que je reste à Paris, il m'a dit mais non, mais il faut faire ça, tu as rendez-vous là, on a le montage là. J'ai dit non. Mais en fait, j'ai déjà pris les billets. De toute façon, je ne vous demande rien. On va se débrouiller pour le financer nous-mêmes. C'est ma compagne qui a financé cette partie du tournage en mode documentaire, c'est-à-dire avec une enveloppe ridicule pour le cinéma. On est partis toutes les deux. On a engagé un chef-op. Et l'armée.
Et le colonel des Peshmerga a fait mieux que de vous trouver des véhicules blindés. Ah ben, paraît qu'il vous a ramené dans le désert du Kurdistan 27 blindés.
Exactement. Ça, c'était un moment assez fou. D'abord, d'avoir comme premier assistant un colonel qui a participé à la bataille de Mossoul, c'est pas rien.
Oui.
Et quand il me dit, mais combien de véhicules vous voulez pour une scène, qu'on n'avait pas fait de repérage, je ne savais pas où j'allais la tourner.
Il paraît que vous aviez acheté un drone au dernier moment.
Oui, on a acheté un drone, ça a été plus compliqué. Dans l'achat du drone, je vous passe les détails, on avait trouvé un droniste qui est irakien, qui était avec nous. Et je dis au colonel, écoutez, moi j'aimerais, je pousse un peu le bouchon, je dis j'aimerais 14 véhicules blindés. Il me dit, ah bon, j'en avais prévu 27. Je lui dis, vous plaisantez ou quoi? Vous me donnez les 27, je veux 50 combattants, 20 combattantes. On met les combattantes à l'avant. Et maintenant, on cherche un endroit. On est allé dans le désert. Je dis, je veux ni goudron, ni pylône, rien. Et puis, quand on a trouvé le lieu, avec le colonel, en tâtonnant, on a fait venir la colonne de blindés. On leur a fait faire des tours et on a filmé au drone des scènes qui, évidemment, quand je suis revenue avec ça, et je savais exactement où je voulais l'insérer au montage, je peux vous dire que et mes producteurs et mon distributeur étaient ravis et étaient plutôt très, très, très contents. Et j'ai aussi filmé des vraies combattantes là-bas, que j'ai insérées dans une vraie scène de fiction pour leur rendre hommage. Peu de gens le voient, mais il y a à un moment donné des filles qui descendent de pick-up au retour d'une bataille et ce sont en gros plan les vraies qu'on a filmées là-bas.
Bon, Caroline Forest, dans cette aventure, en fait, vous êtes devenue une sorte de Catherine Bigelow à la française. Alors, pour les auditeurs, je précise, bien sûr, ils le savent. Je parle de cette cinéaste américaine qui a réalisé, entre autres, Des Mineurs ou Zero Dark Thirty. Et l'équipe du tournage, déjà, elle-même, elle était tout à fait étonnante parce qu'elle était composée de nombreuses nationalités.
Ah oui.
Mais comment vous observez ces gens? Vous, fine, menue, blonde, qui parle français, soudain
D'abord, c'est des équipes. Vous savez, les équipes, on a tourné avec Agora Film, qui est une prod exécutive magnifique au Maroc, qui tourne pour des plus grands films américains. Les plus grands films de guerre américains sont tournés souvent au Maroc. Donc, c'est des équipes extrêmement professionnelles et chaleureuses en plus. Et sincèrement, il y a quelque chose... Moi, je rêve de retourner au Maroc. Je vais écrire des films pour y retourner. Parce que, en plus du professionnalisme... D'abord, on était tous quand même... On parlait beaucoup en anglais parce qu'il y avait effectivement une partie de l'équipe qui était irlandaise, suédoise. Il y avait des Israéliens, il y avait des Marocains, tout le monde était
Kurdes.
Il y avait des Kurdes, c'était plus compliqué parce que chacun parlait un kurde différent. Il y avait des Kurdes réfugiés au Maroc, on a été retrouvés grâce à des amis du HCR pour les embaucher et les faire travailler pendant le tournage. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans un village berbère et que vous leur racontez l'histoire des Yézidis, ils la comprennent très bien. Les Berbères ont vécu beaucoup la même chose que les Yézidis et que les Kurdes. Et que vous leur demandez de jouer des Yézidis face à Daesh, ils sont à 2000% parce qu'ils comprennent totalement cette histoire, ils la vivent. Et donc, c'était absolument inouï. Et j'ai eu envie d'y retourner, vous ne pouvez pas savoir comment.
Ce film sort d'armes, donc, est sorti il y a à peu près 8 mois. Si on veut le regarder aujourd'hui, il est en DVD ou on fait comment?
Il est en DVD, il est en Blu-ray, il est en VOD, il va passer... Un jour, bientôt, sur Canal+, il passera sur France 2 dans plus longtemps. C'est vraiment France 2 aussi qui nous a beaucoup aidés dès le début hein, pour que ce film existe. Donc oui, il est disponible. Il est beaucoup téléchargé au Moyen-Orient, mais c'est vrai. Ce qui me réjouit, évidemment. Ça réjouit moins producteurs qui, évidemment, on a tous laissé beaucoup de sous dans cette affaire. Mais c'est moi, mon objectif est atteint, c'est-à-dire que j'ai fait ce film pour que des Arabes, des Kurdes, des Européens, des Américains voient le même film sur la même guerre. Et on devait faire la clôture du festival de films de Beyrouth, de femmes de Beyrouth. Oui. À cause du Covid, nous n'avons pas pu, mais ça n'est que partie remise. Mais le film est très, très, très regardé dans les pays arabes et évidemment au Kurdistan.
On retrouve tout de suite Caroline Fouret.
Europe 1. Il est 15h42, vous écoutez N'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invitée Caroline Fouret.
Caroline Fouret, jetons un œil sur ce qu'on imagine que sera le monde d'après. Puisque l'issue de la crise planétaire provoquée par le Covid-19 dépend de nous, c'est-à-dire de notre capacité à nous responsabiliser, j'aimerais bien avoir votre avis de lanceuse d'alerte sur ce qui a repris en Chine, c'est-à-dire les marchés d'animaux vivants tels les pangolins et les chauves-souris, ces marchés dont on sait qu'ils ont été les foyers de l'épidémie. Comment une tradition culturelle qui est à la base d'une pandémie planétaire peut-elle ainsi perdurer? Pourquoi la diplomatie internationale ne s'en émeut pas?
Oh ben elle peut s'en émouvoir, mais est-ce qu'elle en a les moyens? C'est bien ça la réalité du rapport de force. C'est que déjà au moment du SRAS, il y avait eu un débat sur les marchés aux animaux vivants, et puis ça a été oublié. C'est vraiment... Il faut se souvenir que la Chine a connu cette immense famine et qu'à un moment donné, c'est ce qui a aussi déclenché chez les Chinois le goût de manger toutes sortes d'animaux qu'ils ne mangeaient pas avant. Et ces marchés sont une vraie institution culturelle. C'est l'occasion de grands... banquets familiaux, de retrouvailles, c'est aussi des fois le marquage d'un statut social. Donc c'est très compliqué. Quand on est devant une tradition culturelle, c'est toujours très compliqué. Mais là, il faut avouer que même si on ne connaît pas encore tout précisément sur le cheminement de cette épidémie, on est certain que ça fait plusieurs fois que ces marchés aux animaux vivants sont des foyers à virus. La déforestation aussi, parce que la déforestation amène à ramener, par exemple, les chauves-souris, qui sont des animaux très contaminants, plus proches de foyers, de populations très densément peuplées. Donc plus la tradition des marchés aux animaux vivants, crée...
Elles sont cuisinées, les chauves-souris.
Oui, alors après...
Elles sont toujours aussi.
Elles jouent un rôle dans la... Parce qu'elles mordent à un moment donné un animal qui peut être l'animal transmetteur vers l'homme. Et j'ai créé une boîte de production il y a un an qui s'appelle Pangolin Studio, parce que je suis très engagée dans la défense des pangolins. Il se trouve, c'est dans une autre
Est-ce
vie.
Que vous allez la débaptiser?
Pas du tout. Je continue à penser que le pangolin est victime d'une chasse aux sorcières, est un pauvre bouc émissaire dans cette histoire. C'est un animal adorable, extrêmement menacé, en voie de disparition.
Oui.
Et ce qui me sidère le plus, c'est qu'effectivement, non seulement les marchés aux animaux vivants continuent, mais que le braconnage de pangolins continue. À l'heure où nous parlons, il n'a pas cessé, il n'a pas ralenti.
Alors, on ne connaîtra jamais le nombre réel de morts dus au Covid-19 en Chine, puisque la parole est verrouillée, elle est confisquée. Vous avez des contacts avec certains de vos collègues journalistes au pays de Xi Jinping?
Très peu, honnêtement. C'est difficile pour moi, parce que quand je m'engage sur des sujets, je dois tellement être sûre de ce que je dis, je ne peux pas me permettre la moindre approximation avec tous les adversaires qui, de toute façon, vont me corriger la moindre virgule. Donc, il y a des pays où, quand vous n'avez pas effectivement l'accès à des intermédiaires, à des gens dont vous êtes totalement sûr et qui vont vous délivrer une information totalement fiable, ça rend compliqué de creuser plus, de porter plus ces sujets.
Beaucoup redoutent l'arrivée de la 5G chinoise. En fait, on s'interroge sur l'usage que la Chine va en faire, car la Chine n'applique pas du tout la protection des données. D'ailleurs, l'Amérique, à la fin du mois de janvier, a même lancé une espèce de procès pour espionnage industriel à la firme chinoise Huawei, qui est le leader de la 5G. Vous l'imaginez comment, le monde qui se dessine, vous qui êtes si éprise de liberté?
Oui, alors évidemment, toute personne qui, et on l'est tous, hein, au fond, nous, est éprise de liberté, a de quoi avoir des sueurs froides en ce moment, parce que effectivement, tout se combine pour nous pousser vers une surveillance de plus en plus radicale, massive. La question de la 5G, par exemple, dont je sais qu'elle alimente des fantasmes, alors c'est compliqué parce que, comme toujours, elle a raison parfois d'alimenter des fantasmes. Il y a un vrai sujet, et vous l'avez bien précisé, il y a un vrai sujet avec la 5G chinoise, qui n'est pas la 5G, par exemple, que peut-être finalement l'Europe finira par mettre au point, qui sera une 4G+, en réalité, qui ne pose pas les mêmes questions. La 5G chinoise, elle pose de vraies questions, parce qu'on sait
qu'il n'y a pas de protection de données.
On sait que ça sera aspiré, et qu'on l'a déjà vu dans des pays qui ont été équipés par cette compagnie, les données sont aspirées. Bon, en réalité, on ne va pas se mentir, nos données sont déjà aspirées à tout niveau, soit par les Américains lors d'échanges d'informations au niveau des relais de certains réseaux. En réalité, on est tracé par les objets connectés, on est tracé par notre balance qui envoie notre poids sur notre téléphone portable. C'est comme ça qu'on a su que les Français n'avaient pris que 80 grammes pendant le confinement. Donc, toute personne qui pourrait rentrer sur notre téléphone connaît en réalité toute notre vie. Et nous-mêmes, nous nous espionnons, nous nous prenons en photo toutes les 5 minutes pour documenter notre petit espion portatif qui est dans notre poche. Mais c'est rajouté à cette histoire de 5G d'autres fantasmes. Et ça, c'est la question des peurs et des peurs qui explosent en période de pandémie. On a fait, on va se le dire, d'immenses progrès parce qu'au moment de la peste, on murait les gens et on les laissait mourir en se détournant tellement on avait peur. Donc on va dire qu'on a énormément progressé pendant le coronavirus. On s'est comporté de façon beaucoup plus civilisée. Mais il est assez logique, malheureusement, que tous les fantasmes explosent, toutes les peurs explosent parce qu'encore une fois, il y a plein de choses qui posent problème. Et si vous vous souvenez en plus que du temps de la peste, ceux qui répandaient le virus, c'était les puces des rats. C'était pas les rats, c'était les puces des rats. Vous pouvez vous dire que pendant une période de pandémie mondiale, si vous avez d'un côté la question de la 5G, de l'autre côté le virus, de l'autre côté quelqu'un qui vous dit on va peut-être vous vacciner avec des puces, personne ne l'a vraiment dit, les gens deviennent dingues. Le travail d'un éditorialiste, c'est d'essayer de démêler le faux du vrai, la part du rationnel de l'irrationnel, et d'essayer de rester le plus calme possible, la tête la plus froide possible, pour dire « moi, je veux savoir c'est quoi le vrai ?» C'est quoi le vrai ? Et des fois, on ne sait pas. Par exemple, sur l'origine du virus, on n'est pas sûr absolument de c'est quoi. On n'a pas toute la chaîne, c'est pas vrai. Sur l'hydroxychloroquine qui nous rend tous fous, c'est pas vrai que quelqu'un a une étude qui démontre de façon complètement sûre
voilà,
que ça marche ou que ça marche pas.
L'étude qui attaquait, en fait, la chloroquine, est elle-même attaquée.
Mais donc, c'est bien le problème, c'est que d'un côté comme de l'autre, on est tombé, parce qu'à un moment donné, on est obligé de débattre de choses qui demanderaient tellement de savoir, de compétences et de temps d'analyse qu'en réalité, nous ne l'avons pas ce temps. Et nous n'avons pas ces compétences. Donc, nous sommes obligés quand même d'être dans un débat de croyance contre croyance. Et on aimerait que les scientifiques prennent le temps et aient la générosité de nous faire une bonne fois pour toutes une étude randomisée, c'est-à-dire qu'un groupe témoin, que ce soit monsieur le professeur Raoult ou les professeurs qui ne sont pas d'accord avec lui, on leur demande aux deux de nous faire une étude avec une méthodologie fiable pour savoir s'il y a un effet sur la charge virale. Et j'espère qu'on l'aura un jour, il ne faut pas désespérer.
Voilà, le message est lancé par Caroline Fourest. On la retrouve tout de suite.
Europe 1. Depuis 15h, Caroline Fourest est l'invitée d'Isabelle Morizet. On va découvrir la dernière partie de leur conversation. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Caroline Fourest, vos livres, vos documentaires et votre film, donc baptisé Sœur d'Armes, sont autant d'outils pour susciter la curiosité et l'engagement, une prise de conscience active. Ce que vous espérez d'ailleurs en écrivant « Génération en français », de la police de la culture à la police de la pensée qui paraît chez Grasset. Et vous dites, en fait, ce qui nous menace va se gagner par la culture et l'éducation. Sauf que la culture aujourd'hui est menacée par toutes les idéologies. Chacun de vos livres d'ailleurs le prouve, et particulièrement celui-là.
Mais donc, d'où l'importance justement de ne pas trop tribaliser la culture, de ne pas en faire un lieu de guerre identitaire, parce que c'est le dernier lieu où on peut s'élever un peu au-dessus de nous-mêmes et de nos identités, où on peut se dépasser, où on peut rencontrer des gens qui ne pensent pas complètement comme nous, et avec lesquels on peut fabriquer, par le biais de nos émotions communes, par le biais de notre humanité commune, quelque chose de plus grand.
On pensait que la société, l'humanité, se civilisait de plus en plus. C'est faux, elle se retribalise.
Oui, alors évidemment que comparé quand même au siècle passé, on a fait encore une fois d'immenses progrès. Là, on est en train d'essayer d'affiner nos vigilances, nos exigences. Par exemple, c'est normal d'avoir une exigence plus importante et accrue sur la question de comment on représente les femmes dans les films de cinéma. Est-ce que ce sont des personnages principaux? Est-ce qu'elles ont des dialogues? Est-ce qu'elles sont actives? Est-ce qu'elles sont passives? C'est normal de se poser la question de ces relations dans le média et l'art qui nous représente, qui forge nos perceptions, qui forge nos désirs même et nos fantasmes. Je note qu'il y a encore un immense chemin à faire. Les films qui ont des personnages féminins forts sont encore totalement méprisés par une certaine critique, notamment du cinéma français. C'est impressionnant.
Vraiment ?
Mais vraiment, je vous assure. Les mêmes qui donnent des leçons toute la journée sur d'autres sujets et qui prétendent être à la pointe du progrès. En réalité, tant qu'un petit garçon ou un critique de cinéma, qui en réalité c'est souvent la même chose, le deuxième est peut-être
mal tourné,
mais voilà, ils s'apprécieront, n'est pas capable de s'identifier à l'écran à travers une femme, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se penser à travers un personnage féminin, on ne sera pas à l'universel, on ne sera pas encore à la représentation universelle. nous les femmes, ça fait très longtemps que quand on a envie d'un peu d'action, d'aventure, de quelque chose qui bouge, on apprend à s'identifier au héros masculin. Alors, c'est en train de bouger. Les Marvel, évidemment, sont en avance parce que de toute façon, ce sont des films sur des super-héros. Donc, si vous les mettez au féminin, ça marche tout de suite. Mais dans le détail, vous verrez qu'encore aujourd'hui dans le cinéma français, les films qui sont portés que par des personnages féminins ont tendance, sauf si c'est victimaire et sauf si c'est dans le registre attendu du féminin, là, bien sûr, ça correspond à tout ce qu'on attend, c'est encore une petite révolution à obtenir. Mais voilà, on va le faire, on va écrire,
Si on élargit un tout petit peu cette conversation, en fait, cette société identitaire, elle va nous contraindre à fuir l'altérité.
Non, il y a une tendance, effectivement, à penser la culture en fonction de l'identité, qui étouffe le débat. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, mais ça marche dans les deux sens. Hein. Vous avez, un homme blanc qui va dire quelque chose, peut-être pour dénoncer le sexisme, on va lui dire « Ah ben non, ben c'est, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous n'êtes pas légitime, vous ne l'avez pas vécu. » Mais à l'inverse, quand Camilla Giordana parle des violences policières, on lui dit « Ah ben oui, mais t'es pas né en banlieue, donc t'as pas le droit d'en parler. » À un moment donné, il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Ce qui devrait compter, c'est ce qu'on dit. C'est comment on argumente. L'essentiel n'est pas l'identité, c'est ce qu'on crée, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on rêve. Et les rêves ne doivent pas avoir de frontières. Sinon, si on nous en met là aussi, alors on ne va pas s'en sortir.
Mais si, on va s'en sortir, justement. Vous créez, Caroline Forest, je l'ai dit tout à l'heure, il paraît que vos deux prochains films, justement, sont, on va dire que les scénarios sont déjà écrits. On peut quand même en savoir un tout petit peu plus. Après les montagnes du Kurdistan, vous allez les poser où, vos caméras ?
Je ne peux pas vous dire beaucoup. Je peux vous dire que c'est des films dans des genres très, 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 très différents. Il y en a un où certainement on ne m'attend absolument pas, donc ce sera encore un joli combat. Et puis, il y en a un autre qui pose ses caméras dans un pays qui m'est cher, très loin d'ici, mais... c'est un thriller écologique que j'ai écrit avant la pandémie.
Oui.
J'ai juste un petit souci, c'est que j'avais écrit une scène d'un personnage manger un pangolin et je vais donc devoir la revoir.
Non.
Parce qu'aujourd'hui, on ne me croira pas. Mais
vous n'avez pas donné le nom du pays ?
Non, mais je vous verrez. Mais ça se passe plutôt dans un milieu que j'aime follement et où je vais me réfugier loin de la faune politique et intellectuelle qui est la vraie savane. Je fais beaucoup de photos d'animaux sauvages et donc c'est un vrai film de savane.
Quand vous n'êtes pas journaliste, donc quand vous n'êtes pas en mission, parce qu'en fait vous êtes une sorte de soldat qui se bat contre toutes les formes de l'inquisition moderne, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas choisi un métier mais une mission. Quand vous n'êtes pas en mission, on peut, si on vous cherche, vous trouvez au fond de la savane.
Ah, exactement, oui. C'est là que je suis avec un appareil photo en train de photographier des girafes, des zèbres, des lions, des léopards. Oui, bien sûr. J'ai travaillé sur beaucoup d'extrémistes. D'ailleurs, j'aspire à honnêtement varier mes centres d'études et c'est ce que je fais depuis quelques années. On a besoin absolument de contrebalancer les trognes sur lesquelles on travaille toute l'année par de la beauté. Et contempler la beauté, la photographier, la célébrer, la filmer, c'est une vraie purification, ça équilibre le corps, ça équilibre l'âme, les sentiments, ça vous remet aussi à niveau, ça relativise beaucoup de choses. En tout cas, moi, c'est là que je puise mon équilibre, c'est dans cette contemplation-là.
Génération en français vient de paraître chez Grasset. Merci infiniment, Caroline Forest.
Non, mais merci à vous, c'était un plaisir.
À bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet qui revient le week-end prochain dès 15h sur Europe 1. De nouveaux invités à prévoir, l'actrice Elsa Bernstein et le philosophe et essayiste Michel Onfray. Europe 1.